Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu.
Genèse chapitre 4. Déjà, le thème de ma réflexion, de ma pensée, c'est la rencontre entre la lumière et nos ténèbres. On a chanté ce chant, on l'a chanté au moins deux fois, « Oui, je te célèbre », et la première phrase disait « Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres ». On peut se poser la question, plus exactement, quand la lumière de Dieu ou le Dieu de la lumière vient rencontrer nos ténèbres ou contrecarrer nos plans, nos intentions, bousculer nos conceptions. Paul parlera dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1, versets 4 et 5, de forteresses, de raisonnements, de faux raisonnements. Certes, vous me direz, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature, et c'est vrai. Amen.
Amen.
Éphésiens 5, 8 dit « Vous étiez autrefois ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Il n'en demeure pas moins que du fait de notre chair, nos conceptions, nos intentions sont souvent bien éloignées de celles de Dieu, notre Créateur. Tout simplement parce que Dieu est au ciel et que nous sommes sur la terre. Pour l'instant, certes, Dieu habite dans nos cœurs par son esprit, certes, nous habitons dans les cieux spirituellement, par la foi, mais concrètement, nous sommes sauvés, certes, mais par la foi, et pour l'instant, nous sommes toujours dans ce corps et dans cette chair qui fait que parfois, il y a parfois, pour ne pas dire souvent, des interférences entre Dieu, sa volonté, sa pensée, et nous, notre volonté et nos pensées. Il le dira d'ailleurs, Ésaïe le dira dans Ésaïe 55, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » De ce fait, la rencontre avec Dieu, notre rencontre avec Dieu, est parfois brutale. Parfois elle est frontale. Tellement il est lumière, et tellement parfois nous sommes, encore du fait de notre chair, encore dans une certaine obscurité. Paul le dit aux Romains, Romains 11, en parlant de Dieu, « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. » Il dit que ses voies sont incompréhensibles. Et n'est-il pas vrai? Bien que nous sommes croyants, nés de nouveau, il y a bien des choses que nous ne comprenons pas parmi les voies de Dieu. Et c'est normal, parce qu'il est Dieu, il est créateur et nous sommes créatures. Un jour, on comprendra on saura comme Dieu sait, mais pour l'instant, nous sommes sur la terre. Il ajoute dans Romains 11, « Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ?» C'est pour cette raison que nous avons besoin de nous tenir tout près du Seigneur, afin que sa lumière éclaire nos ténèbres et que nous puissions marcher à sa lumière. Psaume 36, 10 le dit « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Par Christ en nous, par notre contact avec Christ, nous pouvons appréhender la lumière et la lumière peut venir en nous et nous pouvons voir comme Dieu voit. On va prendre un exemple, l'histoire de Caïn et de Abel. Et ça, c'est l'histoire d'un homme qui est un croyant. Parce qu'on va le voir, il va offrir quelque chose pour Dieu, un sacrifice à Dieu. Donc c'est un croyant, Caïn. Mais c'est un croyant qui a de bonnes intentions. Quelqu'un a dit, un auteur littéraire anglais du XVIIIe siècle, « L'enfer est pavé de bonnes intentions. » L'enfer est pavé de bonnes intentions. Son nom s'appelle Samuel, il s'appelle Samuel Johnson. Et finalement, Caïn, c'est ce type même du chrétien qui a de bonnes intentions. Et pour lui, tout commence de façon extrêmement louable, puisqu'il décide d'offrir quelque chose à Dieu. On peut lire. À partir du verset 2. Elle enfanta, Ève, encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc Caïn est l'aîné qui a été enfanté. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. C'est une histoire terrible, hein ? C'est une histoire terrible, hein ? Et tout commence bien pourtant. Tout commence bien. Il a dans le cœur d'offrir quelque chose à Dieu. Et la Bible nous dit qu'il était laboureur agriculteur. Et donc il semble tout à fait logique que Dieu l'ayant béni, qu'il ait du fruit de la terre, eh bien il décide d'en offrir à Dieu. C'est assez logique, assez légitime. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait de son propre chef. Parce que son frère, le cadet, va le suivre. Mais Caïn, c'est lui qui a l'initiative. Et je dirais qu'il est bien dans son rôle de modèle, de grand frère, surtout dans l'image de l'ancienne alliance. Abel va faire de même. Il offre aussi, lui, il nous a dit qu'il était berger. Donc il offre, lui, eh bien... parmi les premiers-nés de son troupeau en sacrifice. Mais le tournant de cette histoire qui commençait si bien, on la voit au verset 5. On la voit au verset 5. Où là, il nous est dit que Dieu, même déjà au verset 4, Dieu a accepté, a agréé le sacrifice d'Abel, mais par contre, celui de Caïn, il l'a rejeté. Il l'a rejeté. Et là, on peut se poser la question, et certainement, il a dû se poser cette question, Dieu est-il injuste ? Dieu est-il injuste ? Dieu a-t-il des préférés ? Dieu bénit-il plutôt les uns que les autres ? Et on peut se dire que pour ce jeune homme, pour cet homme, ça a dû être extrêmement difficile à vivre. Cet événement, le refus de son offrande par Dieu, va entraîner toutes sortes de sentiments négatifs dans son cœur. Quand vous lisez verset 5 et autres, on voit la dépression, la tristesse. Vis-à-vis de Dieu aussi, quel type de sentiment ? La frustration, l'incompréhension et la colère. Et ça, c'est des sentiments qu'on peut ressentir quand on a le sentiment de vivre une injustice. Et vis-à-vis de son frère, la jalousie. D'autant plus qu'il s'agissait du cadet. Il n'avait pas le droit d'aînesse. Et on va le voir aussi vis-à-vis de son frère, de la colère. Dans sa bienveillance, est-ce que Dieu le laisse comme ça ? Est-ce que Dieu nous laisse comme ça ? Avec nos sentiments, avec nos incompréhensions, on le voit, Dieu ne va pas laisser. Dans sa bienveillance, Dieu ne va pas l'abandonner, il va lui donner une parole. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Parfois, on peut ne pas la rechercher, on peut ne pas chercher à ne pas l'entendre, mais Dieu nous laisse une parole. Dieu nous donne une parole, d'abord par sa parole. Il ne donne pas forcément une réponse, mais il nous donne une parole. Là, en l'occurrence, il n'a pas donné une réponse. Il ne lui a pas dit pourquoi il n'avait pas accepté son offrande. Mais il lui a donné une parole qui est une parole bienveillante. C'est une parole d'avertissement d'abord, mais c'est aussi une parole d'encouragement. Une parole d'exhortation. On le lit. Si, voilà, il lui pose d'abord la question et l'Éternel dit à Caïn, parce qu'en fait c'est lui, c'est Dieu qui entame le dialogue avec Caïn. Il va vers Caïn et il lui dit... Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Et la version français courant dit « À quoi bon te fâcher et faire si triste mine ? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre. » C'est une bonne description, hein ? « Le péché est comme un monstre tapi à ta porte, c'est-à-dire couché à ta porte. Il désire te dominer. » Et être ton maître. Il désire te dominer, mais être ton maître. Donc Dieu lui donne une parole. Il lui donne une parole. Il lui dit, eh bien, change d'attitude. Change d'attitude, ne reste pas comme ça. Autrement, le péché est là, couché à ta porte. Et si tu ne réagis pas bien, il va dominer sur toi. Donc il était dans une mauvaise attitude. Comme on peut parfois être dans une mauvaise attitude quand on ne comprend pas pourquoi Dieu ne nous répond pas, ou répond à un, ne répond pas à l'autre. On ne comprend pas ce que Dieu fait. On a un sentiment parfois d'injustice. Malgré cette parole, malgré cet avertissement, cet encouragement, on voit que Caïn va passer à l'acte. Il va passer à l'acte. On l'a vu, à un moment donné, il va se jeter. C'est fort, hein. Caïn, malgré l'avertissement, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère. Ce n'est pas un accident. C'était prémédité. Il s'est jeté sur son frère et il l'a tué. Il y a des passages à l'acte physique, mais il y a des passages aussi à l'acte avec la parole. La Bible nous parle qu'on peut tuer notre frère ou notre sœur par la parole, soit directement ou indirectement, au travers de la médisance ou de la calomnie. Aux yeux de Dieu, c'est comme un meurtre aussi. Et parfois, on a tué ça dans notre cœur. On a tué ça jusqu'au moment où le petit déclic, et ça sort. Ça sort. Si on n'a pas de courage, parce qu'on est lâche, on le dit à un autre. On n'a pas le courage de le dire directement en face. Ou parfois, si on veut vraiment faire mal, on le dit directement en face, pour que ça fasse vraiment mal à la personne. Dans le cas de Caïn, on le voit, il tue son frère. On peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé pour que Caïn, le croyant, commette un tel acte? Et comment un croyant peut un moment dévier finalement et commettre des actes qui sont vraiment contraires à Dieu et qui sont nuisibles à son frère ou à sa sœur? Qu'est-ce qui s'est produit? Parce que tout est parti d'une bonne intention, ce garçon. L'une des premières raisons, il tait la parole, il la retient, il la garde pour lui. Il la tait d'abord à Dieu, c'est-à-dire qu'il ne dit rien à Dieu. Il ne dit rien à Dieu, il est frustré, il ne comprend pas, il est en colère, mais il ne dit rien à Dieu. Il garde ça pour lui. Et ça, c'est terrible, c'est déjà un premier enseignement. On peut vivre et on vivra du fait de notre, bien qu'on soit croyant, du fait parce qu'on est sur cette terre et que Dieu est au ciel et que Dieu n'est pas obligé de tout nous expliquer, qu'on ne comprend pas tout naturellement, on vivra des frustrations, on vivra des incompréhensions, des sentiments d'injustice. Quoique Dieu n'est jamais injuste, il est juste par définition. Des impressions que Dieu nous aime finalement, nous abandonne ou ne nous aime pas, ce qui est faux, mais on peut le vivre. Et à la différence de Caïn, il nous faut l'exprimer à Dieu. Il faut lâcher la parole à Dieu, il faut l'exprimer. Combien de fois les psalmistes vont exprimer à Dieu leur frustration, leur incompréhension, leur colère vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des ennemis, etc. Combien de fois ils vont exprimer aussi leur tristesse, leur abattement, leur découragement? Des moments où ils sont prêts à abandonner, mais ils le parlent, ils le disent à Dieu. Ils ne le gardent pas pour eux. Il faut que tu fasses ça. Il ne faut pas que tu gardes ça pour toi. C'est comme une cocotte minute qui va exploser autrement et qui va faire du mal, qui va te faire du mal, qui va faire du mal à Dieu, qui va faire du mal à ton frère, à ta sœur. Il faut que tu l'exprimes à Dieu. D'ailleurs, Dieu ne lui reproche pas d'avoir ce sentiment-là. Mais ce qu'il aurait attendu, c'est qu'il lui exprime. Parce que bien des choses se passent quand on commence à exprimer à Dieu ce qu'on a sur le cœur. Bien des choses se passent. Qui de nous n'a pas expérimenté ce genre de sentiment et s'est jeté aux pieds de Dieu? Plutôt que de se jeter sur son frère, c'est toujours mieux de se jeter aux pieds de Dieu que de se jeter sur son frère ou sur sa sœur. Parenthèse, en l'occurrence, le frère, il n'était pas responsable. Il n'était pas responsable. Et bien des choses se résolvent, trouvent une solution quand on dit à Dieu, quand on exprime à Dieu. On laisse couler nos larmes, notre fureur, notre colère, notre incompréhension. Job, on le voit, il va de droite, de gauche, mais il exprime à Dieu. Il ne comprend rien de ce qui se produit, mais il exprime à Dieu. Et pendant ce temps, en même temps, Dieu peut mettre des paroles en lui. Je sais que mon Rédempteur est vivant, il y a des choses qui se produisent. Dieu agit. Ne garde pas la parole, exprime-la à Dieu. Ne garde pas ta frustration, exprime-la à Dieu. Il ne questionne pas Dieu, il n'y a pas de pourquoi. Il tait, donc on le voit, une des premières raisons, il tait la parole. Il la retient vis-à-vis de Dieu, mais il la retient vis-à-vis de son frère. Vous allez me dire, mais pourtant, verset 8, « Cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. » Et il semble que la version plus littérale, en hébreu, et Chouraki l'a traduit, voilà comment il dit. Il dit « Caïn dit à Abel, son frère, 3 points de suspension. » Et c'est quand ils furent dans les champs qu'il se jeta sur lui et qu'il le tua. Je répète, Caïn dit à Abel, son frère, 3 points de suspension. Peut-être voulait-il dire quelque chose à son frère, mais il a retenu la parole. Et parce qu'il a retenu la parole, il est passé à l'acte. Il s'est jeté sur son frère. Et c'est vrai, la violence, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit physique, est souvent une expression d'impuissance. Il a tué la parole à son frère. Peut-être son frère aurait pu lui donner une solution. Peut-être son frère aurait pu lui donner une solution. Certes, c'était le cadet. Attention de ne pas mépriser nos frères et sœurs, même ceux qui peuvent nous sembler plus petits ou plus jeunes. Parce que parfois, la solution ou la réponse peut venir de là où on ne l'attend pas. Et dans l'Église, il n'y a pas de grand ou de petit. Ne méprisons pas notre frère ou notre sœur en disant « la réponse ne me viendra que de Dieu ou que du serviteur de Dieu ». Non. Certes, elle viendra de Dieu, certainement. Elle viendra du serviteur de Dieu, certainement. Mais elle peut aussi venir de ton frère, de ta sœur qui est à côté de toi. Il a tué la parole. Une autre raison, c'est que finalement, il offre à Dieu ce qu'il pense, ce qu'il estime être bon pour Dieu. Mais non pas ce que Dieu estime bon. Et là, on rentre au cœur des choses. C'est que nos bonnes intentions ne sont pas suffisantes avec Dieu. Parfois, nous offrons à Dieu ce que nous pensons, de tout notre cœur, avec la simplicité de notre cœur, ce qu'on pense être bon pour Dieu. Et on lui offre, sans réaliser que Dieu a aussi des intentions, a aussi une volonté, et que ce n'est pas forcément ça qu'il veut de notre part. Ce n'est pas forcément ce type d'offrande que Dieu veut. Ce n'est pas forcément ce type de culte que Dieu veut qu'on lui offre. Je fais une parenthèse, et moi le premier parfois, je dis, on a eu un bon culte, j'ai eu un bon culte. Mais c'est bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le fait d'avoir eu un bon culte, pour nous, c'est forcément un bon culte pour Dieu? Et quand on vient, est-ce qu'on vient pour avoir un bon culte, pour se faire du bien, ou pour faire du bien à Dieu? Certes, ce n'est pas incompatible. Et finalement, en y réfléchissant, les meilleurs cultes, en ce qui me concerne, n'ont pas forcément été ceux que je ressentais comme les meilleurs. Parfois, Dieu m'a parlé, et ce n'était pas forcément ce que j'avais envie d'entendre, mais c'était un bon culte, parce que c'est la parole de Dieu. Dans tout ce que nous lui offrons dans notre culte personnel, parfois on a notre façon, notre petite liturgie finalement, notre façon de prier, d'adorer Dieu, voilà, on dit « j'ai passé tant de temps, j'ai fait », mais est-ce que ça plaît à Dieu? On dit « c'est bien, j'ai passé un bon temps avec le Seigneur, mais est-ce que le Seigneur a passé un bon temps avec moi? Est-ce que le Seigneur a passé un bon temps avec toi ?» Et après on peut généraliser au niveau de l'Église. Dans la forme, est-ce que la prière que je lui ai adressée, est-ce que c'est ce que Dieu attendait de moi? Est-ce que c'est dans les paroles, est-ce que c'était ce que Dieu voulait? Dans les chants que je lui ai chantés, est-ce que c'était ce que je voulais? Est-ce que je lui ai présenté les chants que moi j'aime ou que le Seigneur m'a mis à cœur de faire chanter? Même si ce chant-là, peut-être je ne l'aime pas tellement ou il ne correspond pas à mon mode, à mon style musical. Ce n'est pas incompatible non plus. Mais c'est important de se dire, Seigneur, je viens pour t'offrir un culte. Et non pas, je viens pour me faire plaisir. Il y a plein de lieux dans le monde pour se faire plaisir. Mais là, on est là pour faire plaisir à Dieu, rechercher ce qui lui plaît. Et Caïn, il ne s'est pas occupé de ça. Il est venu avec ses intentions. Ce qu'il offre, c'est le fruit de son travail. Parce qu'en fait, très peu de temps avant, au chapitre 3, on le voit à partir de... Certainement, Quand Adam, si Adam avait fait ça, ça aurait été tout différent. Parce que la terre était bénie. Parce qu'Adam était pur. Mais entre-temps, il y a eu la chute de l'homme et de la femme. Et Dieu va rejeter l'homme et la femme de sa présence. Et la terre va être maudite. La terre va être maudite. Et Dieu dira, chapitre 3, verset 17, tu n'en mangeras point, voilà. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, etc. Vous voyez, on voit que la terre, elle est maudite et c'est la sueur de son front qu'il pourra tirer quelque chose. Donc finalement, ce qu'offre, et l'enseignement qu'on peut retirer, ce qu'il offre, ce que Caïn offre à Dieu, c'est le fruit de son travail. Certainement, il avait travaillé. Mais nos œuvres, on ne peut pas offrir nos œuvres avec Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. C'est par la foi et c'est par la grâce de Dieu, uniquement. Abel, quand il offre les premiers-nés du troupeau, ce n'est pas le fruit de son travail, c'est le fruit uniquement de la grâce de Dieu. Dieu, bien évidemment, n'aime pas plus les bergers que les agriculteurs ou n'a pas préféré telle profession. Mais dans le sens où c'était un moment particulier pour Dieu, ce qu'il offre ne plaît pas à Dieu, simplement. Et Dieu lui dit non, ça je ne l'agrée pas, je n'accepte pas. Il aurait pu chercher à comprendre. Et plutôt que d'être frustré, mon frère, ma sœur, tu peux chercher à comprendre pourquoi Dieu n'accepte pas. Pourquoi Dieu te dit non, pourquoi Dieu n'accepte pas ton sacrifice, ce que tu veux lui offrir, ton service. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et c'est important pour nous, dans tout ce qu'on offre à Dieu, d'avoir conscience du sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est pas gratuit. On ne peut pas se présenter. Quelque part, il se présente avec le fruit de son travail. Voilà ce que j'ai fait. C'est un peu le pharisien, finalement. Il vient, voilà. Et peut-être même dans son cœur, Caïn, on peut pousser un peu plus loin en se disant que peut-être il a pu faire comme avec le publicain. Je ne suis pas comme mon frère Abel. Tu vois, moi j'ai travaillé. Voilà ce que je te présente. Je suis un croyant, mais voilà ce que je te présente. En fait, tu lui présentes son travail. Voilà ce que j'ai fait, à la différence de lui. Pharisien, j'ai jeûné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et finalement, il repart, le pharisien, il n'est pas exaucé. Parce qu'il finalement, il finit par rien demander à Dieu. C'est ce qu'on appelle le propre juste. Il n'a pas besoin d'être justifié. Parce qu'il vient avec ce qu'il a fait déjà. Et il présente à Dieu ce qu'il attend, c'est la louange de Dieu. Que Dieu le loue. Le publicain repart justifié, exaucé, parce que lui n'a rien à présenter, que son pauvre cœur souillé. Et il implore le pardon de Dieu. Mais nous, c'est dans cette disposition qu'on peut se présenter à Dieu. Au travers du sang de Jésus, au travers du sacrifice de Dieu, on ne mérite rien. Dieu ne nous doit rien du tout. C'est simplement par grâce. Et on vient dans cette disposition. Et à ce moment-là, Dieu peut accepter. D'ailleurs, Caïn, ça veut dire acquisition. Et on voit encore cette notion, c'est-à-dire qu'il a acquis quelque chose. Et parce que ce qu'il a acquis, il veut le présenter à Dieu, mais avec ses propres forces. Tu vois, Seigneur, j'ai fait ça. Ça ne tient pas devant Dieu. Ce qu'on fait, c'est par la grâce de Dieu. Et ce qu'on peut présenter, c'est la grâce de Dieu. Alors qu'Abel, ça signifie ce qui monte. Mais on voit, ce qui monte, son offrande est montée à Dieu. Et quand on vient dans les dispositions d'Abel, au travers du sang de Jésus-Christ, en cherchant ce qui plaît à Dieu, non pas ce qui nous plaît, et en cherchant à nous présenter devant Dieu dans selon Dieu, selon ce que Dieu attend de nous, en recherchant ses intentions, son plaisir, sa volonté, alors Dieu agrée. On ne vient pas en disant « Voilà, moi, Seigneur, ce que j'aime, voilà ce que je veux faire. » Et si tu n'acceptes pas, ben, je ne comprends pas et je suis frustré, je me tais, je... Non. Dieu a des choses à nous faire comprendre, des choses à nous expliquer. Dieu n'est pas à notre service, c'est nous qui sommes au service de Dieu. Et par moments, Dieu peut nous mettre sur la touche, comme il peut nous mettre en lumière, et puis après nous retirer. C'est Dieu qui dispose. Et on n'a pas à dire, mais pourquoi moi ? Non. Nous ne sommes que des serviteurs. Ça fait penser à David. Vous savez, David, à un moment donné, les bonnes intentions, David arrive dans le il a l'intention, effectivement, l'arche de Dieu et se trouve chez l'ennemi, et il dit, mais il ne sait pas bien qu'il en soit ainsi. On ne s'est pas occupé de l'arche de l'Éternel. Donc il appelle les anciens et autres, il dit, le peuple, il dit, il faut qu'on aille la chercher pour qu'on la ramène. Et David est plein de... Ça part d'une bonne intention, se préoccuper de la présence de Dieu, de l'arche de Dieu, qui était en pays ennemi, ça part d'une bonne intention. Et donc il part dans tout son enthousiasme. Et là, eh bien, il est dit qu'ils ont pris l'arche, et ils l'ont mis sur un char neuf, porté par des bœufs. Et puis donc elle a avancé. C'est bien, c'était certainement assez lourd, ils ont trouvé ce système-là. Voilà, c'était assez rapide, puis il y avait certainement une certaine distance, plutôt que de le porter. C'est vrai que c'est assez logique quand on a la possibilité de le mettre sur un char et porter par des bœufs, ça paraît plus simple. Puis là, à un moment donné, hop, il y a dû avoir une pierre ou autre, ça a glissé. Et là, Uzza, pauvre serviteur, vient pour le retenir, il est foudroyé net. Et là, il est dit que David, ça a déplu fortement à David, ce que Dieu avait fait. Il n'a pas compris. Et parfois, peut-être, mon frère, tu ne comprends pas pourquoi. Pourquoi tu viens avec de bonnes intentions et tu es là comme frappé, comme arrêté. Et parfois, la façon dont Dieu va faire, c'est que ce n'est pas toujours comme nous on l'imagine, de façon douce et agréable. On a une conception de Dieu, mais Dieu, il peut être très doux, mais parfois il peut être extrêmement ferme et extrêmement brusque dans sa façon d'agir. Parce que c'est nécessaire à ce moment-là. Parce que c'est nécessaire. Et là, Uzza va être foudroyé. Ça ne plaît pas à David. Ça ne plaît pas à David. Il est dit à ce moment-là, il eut peur de Dieu. Il eut peur de Dieu. Et je pense, alors vous allez me dire, c'est l'ancienne alliance. C'est l'ancienne alliance, oui, mais dans la nouvelle alliance. Il y a quand même Ananias et Saphira qui ont menti au Saint-Esprit. Ils ont menti à leurs frères et sœurs, aux apôtres, mais ils ont menti au Saint-Esprit aussi. Et Dieu va les foudroyer net. Je pense que là, il y avait peut-être des amis, hein, ça pouvait peut-être, c'était peut-être... Imaginez-vous si ça vous arrive et que c'est votre mari, votre femme, ou là, en l'occurrence, ils étaient mariés et femmes, donc ça ne pouvait pas être le cas, mais ça peut être votre père, ou votre frère, ou votre sœur dans la chair, ou votre meilleur ami, puis que vous voyez ça, vous pourriez dire, mais attendez, mais il aurait peut-être pu lui expliquer, on aurait pu le mettre en discipline à un moment donné pour... Non, est-ce que Dieu a donné une explication ? Mais parce qu'il y avait un climat de crainte de Dieu, c'était Dieu qui agissait. Ils ont respecté le choix de Dieu. Et pour en revenir, et du coup aussi pour terminer, avec David, il est dit qu'il eut peur de Dieu. Donc ils ont laissé l'arche de Dieu, là à un endroit, chez un homme. Et puis voilà, et puis à un moment donné, David va avoir à cœur, on va lui dire, bah oui, finalement, Dieu bénit la maison d'Obed-Edom, je crois. Et donc David va avoir à cœur de ramener l'arche. Mais ce qui est intéressant, et vous pourrez lire ça dans deux chroniques, j'ai noté ça quelque part, deux chroniques, je vous dirai ça tout à l'heure. À un moment donné, David va dire, eh bien, on n'a pas bien agi. On n'a pas bien agi. Parce qu'on n'a pas agi selon... La pensée de l'Éternel, selon la pensée de Dieu. Normalement, dans la loi, nous n'avons pas agi en consultant la loi, selon la loi. Selon la loi, il fallait que l'arche soit portée par les Lévites et sur les épaules. Eux, ils ont pris la manière la plus simple, quelque part, à la manière la plus simple. C'est la manière peut-être des Philistins ou à la manière du monde, on peut dire, on peut offrir Dieu un sacrifice à Dieu avec la manière du monde. Mais du moment qu'on a des bonnes intentions, Dieu va bénir. Mais non. Non. La façon du monde ne plaît pas à Dieu. Dieu a une façon de faire. Et ce n'est pas parce que nous sommes au 21e siècle que ça a changé. Et David dit, il faut qu'on revienne. Et il dit, parce que vous n'étiez pas là la première fois, vous les Lévites. Eh bien, voilà, c'est pour ça qu'on a été frappés. Mais il dit, maintenant vous êtes là, et maintenant vous allez la porter. Effectivement, après il va se réjouir. Parce qu'il s'est mis à servir Dieu selon les intentions de Dieu. Selon la loi. Et nous, on ne peut pas se dispenser d'offrir un culte à Dieu, au titre individuel, au titre collectif, sans tenir compte de la façon dont Dieu veut que nous le fassions. On va prier le Seigneur ?